Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Sonia Backès, présidente de la province sud des chefs de file des loyalistes. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation alors que l'actualité est très dense et que vous-même vous faites beaucoup parler, avec notamment cette petite phrase prononcée lors de la manifestation des loyalistes et du rassemblement devant le Congrès, c'était le 28 mars. Vous avez lancé à l'adresse des parlementaires qui ont peur des troubles en Nouvelle-Calédonie, et je cite, « Le bordel, c'est nous qui le mettrons ». Alors, c'est une déclaration qui a été reprise, même pendant le débat au Sénat, comme preuve d'une radicalisation de votre part. Ces mots, vous les assumez ou vous les regrettez?
D'abord, vous avez oublié un bout de phrase, Elisabeth, qui est « Le bordel, c'est nous qui le mettrons si on essaye de nous marcher dessus ». Alors, je voudrais revenir simplement sur le contexte. Au moment où je prononce cette phrase, au moment où on manifeste le 28 mars dernier, je reviens de Paris, du Sénat, d'avoir vu un certain nombre de groupes, et je me suis rendu compte en fait que tous les sénateurs qu'on a vus, quels que soient les groupes, nous ont dit « Oulala, est-ce que vraiment vous croyez qu'on peut dégeler le corps électoral parce que les indépendantistes nous menacent de mettre le feu à la Calédonie si on dégèle ?» Et en fait, cet argument est devenu finalement une évidence, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dégeler, qui est quand même simplement une exigence démocratique, bah parce que les indépendantistes menaçaient de mettre le feu, ce qui est quand même, sur le territoire de la République, absolument inadmissible. Donc je voulais simplement équilibrer les choses, et certainement pas, j'ai pas parlé, moi, de troubles à l'ordre public, j'ai pas parlé, je rappelle quand même que dans les mots des indépendantistes, c'est beaucoup plus dur, hein. Ils parlent aujourd'hui de rentrer dans la phase 3 de leur action, qui est des troubles à l'ordre public. On a un président de l'Union calédonienne qui a dit que la condition de la paix, c'était l'indépendance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tant qu'on n'a pas l'indépendance, ce sera pas la paix. Moi, j'ai jamais parlé de guerre. J'ai parlé effectivement de faire un peu de bruit nous aussi, et je pense que c'est une exigence de ne pas s'être laissé faire. Et au final, vous savez, on avait quand même, au moment où je me suis exprimée, Philippe Bas, le rapporteur de la commission des lois, qui avait déposé un amendement pour que le corps électoral ne soit dégelé que pour une élection. C'était ça notre risque, hein. Faut juste se rappeler ça. Au final, ce qui est passé au Sénat est très bien, donc je pense que c'était bien aussi qu'on montre qu'on n'était pas silencieux.
Ah, d'ailleurs, justement, vous avez décidé de continuer la mobilisation, en quelque sorte. Alors, la manifestation dont nous parlions, le mot d'ordre, c'était « y en a marre ». La prochaine mobilisation, c'est prévu le 13 avril, le samedi matin. Ce sera quoi le thème?
C'est maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut faire passer comme message aux Calédoniens, c'est que leur avenir se joue aujourd'hui. Leur avenir se joue malheureusement aussi dans les images. C'est-à-dire qu'on voit bien, les indépendantistes se sont mobilisés. Ils se sont mobilisés avec un mot d'ordre qui était extrêmement fermé, extrêmement de repli sur soi, de très fort, puisque, bon, en dehors du fait que je me suis fait insulter devant la province, le message, c'était vraiment Kanaki et au Kanak. C'est-à-dire que, alors qu'on est vraiment, nous, dans un message de dire, finalement, ce qui est en train de se passer avec cette réforme constitutionnelle, c'est l'ouverture au vivre ensemble. Et nos manifestations, c'est ça. Le mot d'ordre, ce sera, sur la banderole, ce sera... Le dégel, c'est le vivre ensemble. Et en fait, on le voit bien dans les différences de nos manifestations. Dans nos manifestations, on a toute la Calédonie. On a toutes les représentations ethniques, on a tous les âges. On a de plus en plus de métis qui ne se retrouvent pas dans le discours de fermeture et d'exclusion des indépendantistes. Donc, je crois que ce qu'il faut faire passer comme message, et ce qu'on va faire passer comme message, c'est que ce qu'on souhaite, nous, c'est que chacun se sente chez soi. Je veux dire, on a entendu depuis 15 jours le nombre de fois où j'ai entendu « rentre chez toi ». Mais rentre chez toi où? Ici, c'est chez moi. J'ai pas d'ailleurs, moi, contrairement à ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. J'ai pas de maison ailleurs, j'ai pas de famille ailleurs, comme la grande majorité des Calédoniens. Et en fait, je crois que le message, et les gens qu'on représente, les non-indépendantistes, ils sont pas en train de dire qu'eux veulent prendre le dessus sur d'autres, ils veulent juste vivre ensemble. C'est tout ce qu'on veut. On veut juste vivre ensemble avec les Calédoniens de cœur de naissance qui vivent ensemble, qui développent la Nouvelle-Calédonie, et pas qu'on exclue les uns ou les autres ou qu'on essaye d'avoir le dessus sur les uns ou sur les autres.
Alors vous le savez, la CAT, la fameuse cellule de coordination des actions de terrain des indépendantistes, a décidé d'organiser une manifestation le même jour que la vôtre, le 13 avril. Est-ce qu'il faut craindre une confrontation, ou est-ce que chacun va s'exprimer démocratiquement dans les rues de Nouméa?
Non, alors d'abord, je regrette le petit message avec l'urne et la photo d'Éloi Machoro. Bon, c'est de la provocation. Le fait de choisir le même jour et le même endroit, c'est évidemment de la provocation. On n'est vraiment pas du tout là-dedans. Donc, on est en train de travailler avec l'État pour trouver des solutions pour que, justement, nos manifestations ne se rencontrent pas. Et parce qu'on est dans une démarche de manifestation pacifique. On veut montrer à la Calédonie, à la métropole aussi, puisqu'on est quand même dans un enjeu qui est national, que tous les Calédoniens sont regroupés autour de cet enjeu maintenant, dans une volonté de paix, dans une volonté de paix, dans une volonté de vivre ensemble, et qu'on ne comprend pas en fait qu'on ait des messages. Moi, j'ai une à deux menaces de mort tous les jours en ce moment. J'ai mes enfants qui ont été menacés de mort. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas dans l'autre sens. Je trouve que c'est triste. Et puis, alors, je ne vous parle pas des centaines de rentres chez toi et d'insultes. Mais non, en fait, ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'on a tous une légitimité à être sur cette terre. On est chez nous. La plupart ici sont nés en Nouvelle-Calédonie. Et la légitimité, elle est à la fois du fait qu'on est chez nous ici, mais elle est aussi démocratique. C'est-à-dire que les gens doivent voter. C'est le principe de toute société qui fonctionne. Ils doivent voter et leur voix doit peser la même que celle de leurs voisins. C'est tout.
Sur le fond du problème lui-même, c'est bien sûr la révision constitutionnelle qui crée cette ébullition et ces réactions de part et d'autre. Le Sénat a donc adopté en première lecture la loi constitutionnelle qui modifie le corps électoral, inscription des natifs et des personnes qui justifient 10 ans de résidence selon un corps glissant. C'est une bonne nouvelle finalement, ça veut dire que les choses avancent, de son côté le Parlement fait le travail, quoi.
Oui, c'est une bonne nouvelle, mais il faut quand même rester très prudent. C'est une bonne nouvelle parce que, je le rappelle, 4 jours avant, on est passé par un amendement qui voulait que le corps électoral ne soit dégelé qu'une seule fois. Enfin, c'est lunaire. On passe par des réflexions des parlementaires, de certains parlementaires, qui vivent dans un autre monde qui, eux, sont en capacité de mettre le feu à la Calédonie.
C'est par méconnaissance du sujet ou c'est par idéologie
Souvent par méconnaissance. Souvent par méconnaissance et par peur. C'est pour ça que votre première question a un intérêt, c'est-à-dire qu'ils sont tellement, et les indépendantistes jouent là-dessus bien évidemment, c'est-à-dire qu'ils ont tellement peur de revoir les événements que du coup, il vaut peut-être mieux tout lâcher que de revoir ça. Ben non, parce qu'en fait, dans la situation dans laquelle on est, c'est pas parce qu'on va lâcher l'indépendance aux indépendantistes que ce sera pas la guerre en Calédonie. Donc c'est certainement pas comme ça qu'on règle le problème. Je veux dire, les Calédoniens ont décidé 3 fois de voter non. Donc maintenant, il faut faire avec ça. Et nous, on défend ces Calédoniens qui ont voté non. Donc oui, pour répondre à votre question, oui, c'est une bonne nouvelle ce qui s'est passé au Sénat, puisqu'au final, on a obtenu ce qui était prévu au départ, c'est-à-dire le dégel du corps électoral à 10 ans. Mais c'est qu'une première étape. Il y en a 3. La deuxième, c'est l'Assemblée nationale, qui aura lieu début mai. Et puis la troisième, c'est le Congrès de Versailles, où il faut avoir 3/5. Chaque étape est une étape extrêmement difficile, parce que on a, là, en plus, à l'Assemblée nationale, on va avoir LFI qui va rentrer dans la danse. Ça va être un bonheur, vu les prises de parole qu'ils ont eues pendant l'examen de la loi organique. Mais on a des parlementaires qui se posent des questions. Et c'est normal. C'est la représentation nationale. Ils essayent de prendre la bonne décision. Mais jusqu'au dernier moment, ça tremble. Jusqu'au dernier moment, tout est possible.
Et il y a assez de lobbying qui est fait en métropole. On sait que les indépendantistes sont sur place. On a vu des images de petites manifestations devant le Sénat. Vous êtes organisé également en métropole pour influencer autant que possible les parlementaires, ou en tout cas les informer.
Oui, on est très organisé, en particulier avec Nicolas Metzdorf et Virginie Rufnak, qui elle s'occupe de la partie LR, les Républicains du Parlement, et nous des autres formations politiques. On est très organisés, on a vu beaucoup de monde, on va revoir du monde, repartir les uns et les autres pour refaire le tour des parlementaires. Cette démarche-là, elle est absolument essentielle parce qu'il y a une méconnaissance de la plupart des parlementaires du sujet calédonien. Et ceux qui le connaissent, et après, on a des postures des uns, des autres, des inquiétudes, des questionnements. Donc, on a besoin de faire ce travail-là. C'est essentiel. Et je le répète, parce que j'ai vu des gens me dire « Non, mais c'est bon, on l'a eu là. Maintenant, il faut peut-être plus bouger, plus... » Non. Aujourd'hui, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des gens qui œuvrent à l'intérieur de l'Assemblée nationale et des gens qui pèsent pour que cette réforme constitutionnelle n'ait pas lieu.
Alors, au Sénat déjà, il y a quand même eu au moins 2 amendements qui ont été adoptés, qui ont modifié le texte du gouvernement. On pense à la disposition qui lève la date butoir du 1er juillet pour permettre de trouver un accord 10 jours avant les élections. Est-ce que c'est gênant ou est-ce que, bon, bah, c'est...
Oui,
c'est admissible.
Oui, c'est gênant, c'est n'importe quoi. C'est de la méconnaissance du sujet. Ça change pas fondamentalement les choses, mais ça va générer une ambiance pendant la campagne qui va être difficile. C'est-à-dire que de se dire on peut trouver un accord jusqu'au dernier moment, Ça va être jusqu'au dernier moment. Non, mais lui, il n'est pas capable de trouver, mais moi, je suis capable de trouver. Mais en fait, il n'y en aura pas. Parce que quand on est en campagne électorale, il ne va pas y avoir
un accord. C'est pas le moment où on négocie,
pendant une campagne électorale. Donc, tout ça n'a aucun sens. Franchement, c'est juste de la méconnaissance. C'est-à-dire qu'on a certains sénateurs qui, parce que l'histoire a été celle-là, et qu'on n'est pas du tout aujourd'hui dans la situation ni de 88, ni de 98, c'est... il faut un accord. Oui, mais enfin, moi, j'ai envie de leur dire, vous savez quoi, trouver un accord avec la Russie. Et puis après, venez nous expliquer comment ça se passe ici. Enfin, sans blague. On vient nous donner des leçons. On a des indépendantistes avec qui on essaie de parler depuis 2 ans et demi. Il y a encore un communiqué qui est sorti ce matin pour dire, allez, on rediscute plus, alors qu'ils ont décidé, il y a une semaine, de discuter. Bon, ça fait 2 ans et demi qu'on vit ça. Nous, on est favorable à la discussion depuis le départ. Et on a fait des propositions à tous les moments. On n'en a aucune en face. Donc... bon, bah, y a un moment, ils ne veulent pas discuter ou ils ne sont pas en capacité de le faire, j'en sais rien. Mais...
alors, ils disent tous les jours, et ils l'ont dit notamment lors du congrès du FLNCAST, c'était assez frappant, qu'ils sont partisans d'un accord global. Ils disent régulièrement que si un accord est possible, vous pensez que non, un accord n'est plus possible aujourd'hui. Est-ce qu'il y a rupture des discussions quand on entend le ton de leur déclaration, ou est-ce que malgré ces communiqués incendiaires, vous arrivez à garder le lien et à parler quand même?
On parle tout le temps. Moi, j'ai vu un certain nombre de responsables politiques encore la semaine dernière, après mes déclarations de jeudi, donc on continue de se parler dans des formats finalement malheureusement informels et donc non validants. Par contre, je pense qu'il y a un manque de sincérité de la part de, notamment de Milatou Koumouli, quand il dit qu'on n'est pas loin d'un accord ou d'un certain nombre d'autres. Oui, on est loin d'un accord. La réalité, c'est que on n'est pas du tout calé sur la question du dégel du corps électoral, on n'est pas du tout calé sur la représentation du Congrès, on n'est pas du tout calé sur la question du droit à l'autodétermination, on n'est pas du tout calé sur ce qu'ils appellent la trajectoire, puisque eux disent il faut qu'il y ait une trajectoire certaine vers l'indépendance, et que nous, on dit, bah non, en fait, on a décidé 3 fois non. Donc cette trajectoire, est-ce que ce qu'accepte Calédonie Ensemble aussi, hein, Calédonie Ensemble, est dans cette dynamique de dire la trajectoire, quoi qu'il se passe, c'est l'indépendance. Bah non. Non, on a été... effectivement, la trajectoire, ça a été celle de l'émancipation pendant l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa s'est terminé avec 3 fois non. Donc on n'est plus dans cette trajectoire-là. On construit une Calédonie qui est effectivement où le droit à l'autodétermination est acquis, mais on n'est pas dans une pente glissante où on n'a pas d'autre choix que l'indépendance. Ça n'existe pas.
Leur autre revendication nouvelle, c'est cette mission du dialogue ou cette personnalité impartiale qui viendrait mettre tout le monde autour de la table. Vous y croyez? Pourquoi est-ce qu'ils demandent ça aujourd'hui? Alors qu'ils n'arrivent pas à discuter avec vous, est-ce que quelqu'un pourrait, venant de Paris, vous réunir tous et trouver une solution?
Je crois que, malheureusement, cette démarche, comme les autres, manque de sincérité. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 2 ans et demi, maintenant, ils essayent de gagner du temps. Gagner du temps pourquoi? Bah, pour espérer qu'ils changent d'interlocuteur, je ne sais pas, qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée, que les choses changent, qu'ils ne se retrouvent plus dans cette situation-là. Gagner du temps pour essayer de faire les élections finalement sans dégel du corps électoral, c'est quand même leur intérêt maximal. Donc la mission du dialogue, soit ils l'ont demandé au départ, soit ils la demanderont après les élections, une fois que les choses seront apaisées. Une mission du dialogue aujourd'hui, à la limite, si on conserve le calendrier de l'examen de la loi constitutionnelle, pourquoi pas? Mais enfin, là, leur idée, elle est simple, elle n'est pas de dialoguer, sinon on pourrait très bien le faire, on est là. Ils peuvent dialoguer avec nous, il n'y a pas de fermeture du dialogue ni de leur part, pendant les discussions en tout cas, ni de leur part ni de la nôtre. Donc, dans l'absolu, on pourrait dialoguer, c'est un nouvel artifice pour demander surtout à arrêter l'examen de la loi constite. Bah, moi, je considère qu'il faut qu'ils fassent un geste de bonne volonté en disant, bah, on dialogue à fond. Moi, je leur propose, hein. Je leur propose publiquement, je leur ai proposé en off, mais comme ça, c'est public. Je leur ai dit, retrouvons-nous 3 jours, 4 jours, 5 jours, enfermons-nous. Jusqu'à trouver un accord. Et ça, on peut le faire demain. Hein. On peut le faire demain. On se met à part où ils veulent. Hein. Moi, j'ai pas de problème sur le lieu. On se met à part. On se met 4 jours, 5 jours. Si à la fin on échoue, mais au moins on a essayé. Aujourd'hui, ils n'essayent pas. Oh. Et ça, c'est pas une question. Pardon, mais c'est pas une question de la date du passage à l'Assemblée, parce que l'Assemblée, c'est dans un mois et demi. En un mois et demi, si on se, vous savez quoi? Moi, je suis prête à arrêter tout ce que je fais d'autre, hein, pour discuter et pour trouver une solution. C'est eux qui veulent pas. Ils veulent pas parce que aujourd'hui, leur volonté, ce n'est pas réellement de trouver une solution.
Et même en off, ils vous ont pas donné une réponse pour
l'instant? Ils disent oui, mais ils ne fixent pas de date.
Ça ne se concrétise pas. Voilà. Pour revenir à la loi elle-même, donc elle a été adoptée par le Sénat, on avait beaucoup parlé des amendements qui avaient été déposés sur la modification de la représentation des provinces au Congrès. Ils n'ont pas été retenus, ils sont abandonnés, on n'en parle plus. Est-ce qu'ils vont être défendus à l'Assemblée? On a cru comprendre que non.
Alors... C'est une question qu'on se pose encore. Nicolas Metzdorf s'exprimera, puisque c'est lui qui aura à les déposer ou pas. La question qui se pose à nous, c'est de ne pas prendre le risque en déposant des amendements à l'Assemblée de ne pas avoir ce qu'on appelle un vote conforme, puisque pour adopter une loi constitutionnelle, il faut que cette loi soit votée exactement dans les mêmes termes entre les deux chambres, donc l'Assemblée et le Sénat. Comme le Sénat n'a pas adopté les amendements, si l'Assemblée les adopte, ça veut dire qu'il faut repasser au Sénat, et on sait qu'au Sénat, le groupe centriste qui est proche de Philippe Gomès a dit que si les amendements étaient votés, il ne voterait pas le dégel. Donc ça va bien avec la position de Philippe Gomès, qui est toujours de servir de marchepied aux indépendantistes. Donc on ne va pas prendre le risque, nous, de ne pas avoir un vote conforme et de perdre le dégel pour passer ça. On le fera autrement, sans doute par voie juridique, par voie de recours, la question du rééquilibrage. Mais la décision n'est pas prise encore. C'est Nicolas qui verra si... Il y a d'autres amendements qui passent à l'Assemblée et que dans ce cas-là, de toute façon, il n'y a pas de vote conforme. Dans ce cas-là, on essaiera peut-être de les passer. Ça sera une décision stratégique à prendre quelques jours avant le passage à l'Assemblée.
Le rapport de force à l'Assemblée, on est sûr d'ores et déjà qu'il y aura une majorité pour adopter le texte ou il y a encore des doutes ?
Aujourd'hui, le risque le plus important, il n'est pas forcément l'absence de majorité, parce qu'au final, la majorité présidentielle plus les LR... plus le RN qui a voté, dont les trois sénateurs ont voté pour également le dégel au Sénat. Si ces groupes-là qui ont voté au Sénat revotent de la même manière à l'Assemblée, on a une majorité très large à l'Assemblée et au Congrès de Versailles. Le risque le plus grand aujourd'hui, c'est qu'on ait des bâtons dans les roues pour que le texte arrive au bout. C'est-à-dire qu'en fait, on ait des forces qui s'opposent au sein de l'Assemblée à ce que le texte arrive jusqu'à l'Assemblée. Et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser le 13 avril. Il y a des gens qui m'interrogent, mais qui me disent « Mais non, mais finalement, ça s'est bien passé au Sénat, c'est bon, c'est réglé. » Non, 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 rien n'est réglé. Et encore une fois, c'est le choc des photos qui fait... c'est triste, c'est malheureusement, mais j'ai suffisamment travaillé à Paris dans les couloirs parisiens pour savoir que, malheureusement, un certain nombre de décisions se prennent sur les images qui passent sur BFM et sur CNews. Il faut qu'on soit là. Il ne faut pas qu'on ait que des images de drapeaux kanaki qui circulent, mais qu'on ait des images qui montrent que les Calédoniens, ils veulent vivre ensemble. Ils veulent vivre ensemble. Ils ne veulent pas vivre sur la base de qui on exclut, qui on garde, qui au-dessus des autres. Non, ils veulent juste vivre ensemble. Et moi, j'ai vu beaucoup de jeunes, beaucoup, qui me disent « Mais on ne veut plus de tout ça, quoi. » En plus, ils sont de plus en plus métissés. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui, finalement, n'ont pas dans leur sang une part de métissage. Et tant mieux, et tant mieux. Mais ils ne veulent plus de cet affrontement-là. Et moi, ce que j'ai vu à la manif de la CCAT devant mes fenêtres la semaine dernière, c'était triste. C'était triste. Les insultes, l'absence de représentation de la Nouvelle-Calédonie, hein, parce que c'était mono-ethnique, c'était... Honnêtement, c'est pas cette Calédonie-là que je veux. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse avoir, samedi 13, tous les Calédoniens de toutes les origines qui soient là pour dire, écoutez, le dégel, c'est le vivre ensemble.
Ouais. On a parlé des loyalistes et du rassemblement, des indépendantistes, notamment de la CCAT, on a parlé des parlementaires, et l'État dans tout ça. Parce que la convocation du Congrès... du congrès du Parlement à Versailles, c'est une décision du président de la République. Est-ce que l'État va tenir jusqu'au bout ou est-ce que lui aussi peut être influencé par ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie ? Comment est-ce que vous les sentez ?
L'État a toujours, depuis le début du dossier calédonien, dit avant ce qu'il allait faire et fait après ce qu'il avait dit. On ne peut pas le mettre en défaut puisqu'il l'a fait à tous les coups. Là, pendant 2 ans, sous l'égide de Gérald Darmanin, il y a eu des discussions sous toutes les formes, à tous les endroits. Je ne reviens pas sur le fait qu'il est venu 7 fois, il nous a reçus 6 fois à Paris. Les indépendantistes sont sortis, sont rentrés en partie, sont sortis en partie, sont revenus en partie. Enfin bon, on a eu toutes les configurations. Mais le dialogue a eu lieu pendant 2 ans. Et pendant ce dialogue, il a dit, écoutez, il faut qu'on se donne une date limite. On ne peut pas continuer à se parler sans se parler pendant des mois et des mois parce que vous avez des élections et que les élections, à un moment donné, elles doivent se tenir. On peut les reporter, mais pas indéfiniment. Donc, si au 31 décembre, il n'y a pas d'accord, on déposera une loi constitutionnelle sur le dégel. Ce que l'État a fait. Et aujourd'hui, l'État, qu'est-ce que dit Gérald Darmanin ? Dit, s'il y a un accord, je remplacerai ce qui est en train de se passer au niveau constitutionnel par un accord. Mais faites votre partie du job. Et aujourd'hui, nous, on fait notre partie du job parce que, je le répète, hein, on a fait tous les appels possibles et imaginables pour discuter, on a fait des propositions. Maintenant, on attend d'avoir un vrai espace de discussion où on s'enferme, on se dit les choses qu'on a à se dire en face, et puis à la fin, on essaye de proposer aux Calédoniens quelque chose. ça n'arrive pas, eh ben écoutez, l'État, lui, il tient sa ligne, c'est-à-dire que l'État, il a dit qu'il allait faire cette loi constitutionnelle. Pourquoi il l'a fait ? Parce que, tout simplement, ils savent très bien que le Conseil d'État l'a dit, de toute façon, si on allait aux élections avec un corps électoral gelé, ces élections seraient annulées. Je veux dire, ça ne tient pas, on ne peut plus avoir un corps électoral gelé aujourd'hui. Donc, tout le monde le sait, donc soit on passe par voie de recours, soit l'État, et c'est quand même sa responsabilité, le fait par voie législative ou constitutionnelle.
Donc, affaire à suivre, on a bien compris, l'Assemblée nationale, puis le Congrès de Versailles. On aura l'occasion, bien sûr, sûrement d'en reparler. Mais il y a un autre sujet de tension en Nouvelle-Calédonie, c'est le pacte nickel. On en parle énormément là aussi. Encore une fois, report de date en date depuis que Bruno Le Maire l'a proposé au mois de novembre. Cette semaine, les élus du Congrès devaient habiliter le président du gouvernement. Ça a été une séance très marquante avec de fortes déclarations. Qu'est-ce que vous en retenez ? Est-ce que vous pensez que le président du gouvernement va finalement signer ce pacte nickel ? Et est-ce que vous êtes convaincu que c'est indispensable qu'il soit signé ?
Alors, j'ose pas dire que Louis Mapou a été très bien et très courageux à cette séance, parce que quand je dis ça, les indépendantistes disent que ça y est, il a fait un deal avec moi. Je vous confirme et je vous promets que c'est pas le cas. Calédonie Ensemble traite de victime du syndrome de Stockholm. Enfin, c'est dramatique. Qu'est-ce qu'a dit Louis Mapou et qu'est-ce qu'on dit nous ? Ce pacte nickel, ils ne veulent pas le nickel des Calédoniens. Il n'y a aucun article, aucune ligne, aucun mot dans ce pacte qui dit que l'État va piquer le nickel des Calédoniens. On pique la souveraineté de personne, puisque chacun signe en fonction de ses compétences. L'État ne vole pas la compétence fiscale, l'État ne vole pas la compétence en termes de nickel. Enfin, tout ça est juste n'importe quoi. C'est simplement une situation où, en fait, on est depuis 6 mois en train de discuter de comment l'État peut nous aider financièrement à sauver les 3 usines. C'est ça, la réalité. Et vous savez quoi ? Vu la situation des finances en métropole, l'État devrait nous dire à un moment donné, vu nos atermoiements, vous savez quoi ? Débrouillez-vous avec vos usines. Et là, il y a 102 milliards de pertes par an sur chacune des 3 usines, et on est mort. C'est-à-dire qu'aucune des collectivités n'a la capacité de sauver les usines. Et je l'ai dit pendant la séance, mais c'est 13 300 emplois qui sont en jeu, 13 000 familles qui se demandent comment ils vont finir le mois. Donc, je crois que Louis Mapou a dit des choses très simples. C'est pas une remise en cause de la doctrine nickel. C'est simplement une parenthèse pendant 3 ans pour sauver les usines. C'est pas une perte de souveraineté. Chacun garde sa souveraineté. C'est le Congrès qui votera les mesures fiscales. C'est le Congrès qui votera les mesures en matière minière. Il n'y a pas de sujet, en fait. Et tout ça est monté en épingle par, d'une part, alors c'est celui qui met le feu, une fois de plus, c'est quand même Philippe Gomès, qui dit absolument n'importe quoi. Perte de souveraineté. Enfin là, il perd son sang-froid, le garçon. Il faut qu'il fasse ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il parte à la retraite. Je crois qu'à un moment donné, ça devient urgent. Mais du coup, qui a mis le doute, je pense, dans la tête des indépendantistes, qui se disent, ah bah oui, si on nous enlève notre souveraineté, ça va pas du tout. Et qui accuse Louis Mapou, ce pauvre Louis Mapou qui défend depuis des mois le pacte nickel pour essayer de sauver les emplois, de traître, quoi. C'est lunaire. Non, enfin, il y a un moment...
Mais donc on a
moi, je veux dépolitiser ce truc-là. C'est-à-dire que moi, je défends pas le pacte nickel parce que c'est le pacte nickel des loyalistes contre les indépendantistes ou de l'État. Non, je défends le pacte nickel parce que ça va nous permettre tout simplement d'avoir les dizaines de milliards qui manquent pour sauver les familles. C'est tout.
On a assisté à cette motion préjudicielle adoptée, défendue, présentée par Calédonie Ensemble, adoptée par l'UNI, l'UC, l'Éveil Océanien. Qu'est-ce qui les réunit ? Ce sont des raisons économiques, politiques, idéologiques ?
Je crois qu'à la fin, parce que c'était compliqué quand même, Jacques Lallier a dit « moi finalement je signerai peut-être ». Enfin, on comprend bien que tout ça n'est pas calé à l'intérieur des groupes. Pourquoi elle a été votée ? Pour des raisons procédurales. C'est-à-dire qu'au final, les services du Congrès nous ont dit qu'on ne pouvait pas le voter comme ça. Donc la commission plénière est réinscrite mardi après-midi prochain. Je crois dans le fait que si les indépendantistes font le travail, l'effort d'expliquer à leurs militants ce qu'il y a dans le pacte, parce que moi j'ai eu des discussions avec des responsables de l'Union calédonienne, où j'ai dit, on me dit, oui mais en fait ce que fait l'État là, c'est le pacte colonial de 1957 avec l'Afrique. Je dis mais ok, prenons le pacte, regardons ligne à ligne à quel endroit du pacte il y a une reprise en main du nickel calédonien par l'État. Eh bien il n'y a pas, en fait, il n'y a pas. Donc il y a une espèce de petite histoire qui s'est racontée là sur le fait que d'un coup c'était une perte de souveraineté qui a fait monter les indépendantistes dans les tours sans que jamais il y ait eu un travail de fond pour dire mais en fait il n'y a pas de problème quoi.
L'un des arguments qui peut marquer les gens, c'est de dire que l'État oblige la Calédonie à participer à hauteur de 8 milliards alors que les finances publiques de la Calédonie ne le permettent pas du tout.
Oui, c'est un sujet. Alors, moi, je ne vais pas y revenir, mais moi, je m'étais opposée aux 8 milliards. Hein, dans toutes les versions du pacte, il était écrit réserve province sud. Ça veut dire que la province sud n'était pas d'accord. Parce que je considère que les Calédoniens, 8 milliards, c'est trop important. Louis Mapou s'est expliqué sur le sujet, puisque c'est lui qui a accepté, puisque c'est bien le gouvernement. Moi, la province, j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord, mais finalement, je ne signe pas cette page-là. Je signe la page qui concerne la province, et les 8 milliards, ça ne concerne pas la province. Donc, il s'en fiche un peu que je ne sois pas d'accord. Mais Louis Mapou a accepté, et Gilbert Thuyénon a accepté. Pourquoi ? Parce qu'eux disent, bah, en fait, on a trouvé des moyens que ce ne soit pas les Calédoniens qui payent, au final. Parce qu'on veut demander à l'État de ne pas avoir à rembourser la dette les années où on a à payer. Bon, ça, c'est leur négociation. Encore une fois, moi, je n'ai pas à signer cette partie-là. J'ai toujours été opposée à cette partie-là. Mais le gouvernement a accepté. Et l'État l'a dit maintenant. Ça, on a fait 10 000 versions différentes sur laquelle, à la fin, il y a un équilibre. Donc, il ne s'agit pas de rechanger la version. Le gouvernement a accepté de proposer au Congrès 8 milliards. Les provinces ont accepté leurs exigences à elles et que chacun signe sa partie. Ça n'engage, ça ne remet pas en cause la doctrine nickel. Ça ne vole pas le minerai des Calédoniens. Et ça n'engage pas sur du long terme. Ça permet simplement de sauver à minima les deux usines qui ne sont pas encore fermées, et la troisième, de trouver un investisseur qui, pour l'instant, ne se bouscule pas au portillon, parce que sans le pacte nickel, KNS ne trouvera jamais de repreneur.
Bruno Le Maire va rester patient, parce qu'il a mis plusieurs ultimatums. La dernière fois, on ne touche plus au pacte, on le signe tel quel et avant la fin
oui,
mars.
Il faut le signer tel... enfin, c'est pas comme si, encore une fois, c'est pas comme si on n'avait pas négocié pendant des heures et des heures.
Il va supporter un délai... Enfin, le pacte va rester valide comme ça pendant plusieurs semaines, on ne sait pas encore quel est...
J'espère que... D'abord, j'espère qu'on ne va pas trop attendre. Bon, là, c'est mardi, la commission plénière, donc je crois que le président du Congrès a compris qu'il y avait un peu d'urgence, donc tant mieux. J'espère qu'à la commission plénière, on aura un avis favorable pour que, en séance publique la semaine d'après, puisqu'il faut 5 jours entre la commission et la séance publique, on valide le pacte. Encore une fois, je voudrais juste que chacun reprenne ses esprits et ne fasse pas de tous les sujets un combat politique, quoi. Le pacte nickel, c'est pas un combat entre les indépendantistes et non-indépendantistes. Le pacte nickel, c'est sauver les familles, c'est tout. Donc, l'État est patient parce qu'il voit encore l'échéance de la prochaine commission plénière et qu'on peut y arriver. Je pense honnêtement que si le Congrès n'habilite pas le président du gouvernement ou si le président du gouvernement décide de ne pas signer, l'État nous dira merci, ciao, débrouillez-vous avec vos usines.
Mais le président du gouvernement n'a pas besoin de l'habilitation du Congrès. Est-ce que vous pensez qu'il va passer outre s'il ne l'a pas ?
Alors là, vous savez quoi, je ne suis pas dans la tête du président du gouvernement. Ce serait tout simplement... La prise de sa responsabilité. Je le répète, ni le président du gouvernement ni les présidents de province n'ont besoin d'être habilités compte tenu de ce qu'il y a dans le pacte, parce que ça n'engage pas ni le Congrès ni nos assemblées, ça engage la responsabilité du président. Donc il pourrait très bien le faire, d'un point de vue purement juridique, il pourrait très bien le faire. D'un point de vue politique, c'est sa responsabilité. Mais quand je vois, aujourd'hui, j'ai vu encore des images avec des tags disant qu'il allait prendre une balle, c'est-à-dire qu'en gros... Nous, quand on n'est pas d'accord avec les militants indépendantistes, on nous dit, alors soit on nous menace de mort, ce qui est mon cas, soit on nous dit de retourner chez nous, alors même si on ne voit pas très bien où c'est chez nous, mais en tout cas, on nous dit de dégager d'ici. Et puis les indépendantistes, quand ils ne sont pas d'accord sur la ligne d'un certain nombre, bah, on les menace de prendre une balle. Enfin, c'est pas la société qu'on veut, quand même.
Mais justement, vous le savez, il y a une triple crise, au moins politique, économique, crise du nickel, avec forcément le moral des Calédoniens qui est loin d'être au beau fixe, on entend leurs récriminations, leurs craintes, leurs incertitudes. Comment on en sort ? Quelle est la réponse qu'on peut leur donner ?
On en sort... Vous savez, la Nouvelle-Calédonie, malheureusement, n'a toujours trouvé des solutions qu'après un rapport de force. Je préférais leur dire autre chose, je préférais leur dire que ça n'arrivera pas. On est dans le rapport de force aujourd'hui, on l'a été en 84, on l'a été pour l'usine du Sud. La Nouvelle-Calédonie fonctionne comme ça. Ce rapport de force, aujourd'hui, il est là. Donc moi, je dis aux Calédoniens qu'il faut qu'ils se mobilisent parce que ce rapport de force, c'est sur eux qui pèse. C'est, encore une fois, c'est les images de la mobilisation des uns et des autres qui fera de quel côté la pièce tombera. Et puis à la fin, on trouvera une solution. Une fois que le rapport de force aura été posé, on trouvera une solution.
Rapport de force ne veut pas dire forcément affrontement.
C'est pas du tout ce que j'ai dit. Oui, je le précise, effectivement. J'ai utilisé un certain nombre de mots. Je crois qu'il faut qu'on fasse du bruit, qu'il faut qu'on se fasse entendre, qu'on ne laisse pas dire à Paris que les seuls qui finalement sont capables de faire que ça se passe pas bien, c'est les indépendantistes. Non, nous aussi, on est capable de mobiliser des gens.
D'où mobilisation du 13 avril.
Exactement.
On sait déjà où ça va avoir lieu, comment ça va se passer.
On sait d'où ça part, c'est une marche. Et puis on est en train de travailler de manière sereine avec l'État pour que les choses se passent bien et que ce soit une marche pacifique et qu'il n'y ait pas de croisement entre les deux manifestations. Je pense que c'est l'intérêt de tout le monde. Et on est vraiment, nous, dans une dynamique, encore une fois, de marche pacifique, de vivre ensemble, de construction ensemble, simplement de montrer qu'on est là et qu'on n'a pas l'intention de se laisser faire.
Et donc les éléments seront rendus publics dans les jours qui viennent, j'imagine.
Exactement.
Pour que les gens qui veuillent y participer puissent.
Mais Port-Moselle, samedi 13 avril, ça c'est le rendez-vous. Après, on ne sait pas dans quel sens on marchera. Mais pour l'instant, samedi 13 avril à 8h à Port-Moselle.
Ben voilà, il y a déjà pas mal d'éléments. Sonia Becker, merci d'accepter votre invitation.
Merci.
Je vous dis.